jamais à un homme que vous devez vous attacher. Vous savez bien que je l'ai prêché, que je prêche souvent. Nous ne nous attachons pas à l'homme, nous sommes reconnaissants à ce que Dieu nous donne par l'un ou par l'autre, mais ce n'est pas à un homme que nous nous attachons parce que les hommes, ils passent. Nous ne faisons que passer sur la terre. D'un instant à l'autre, nous pouvons être sur l'autre rive. Alors, nous nous attachons au Seigneur, nous nous attachons à sa parole et qui demeure et nous ne serons pas pris au dépourvu. Eh bien, Philippe est allé et sur ce chemin désert apparaît tout à coup cette fameuse caravane et ce ministre de la reine de Candace, ministre d'Éthiopie, qui lisait ce prophète Isaïe sans comprendre. Et c'était la conversion de l'eunuque d'Éthiopie et même son baptême, peu de temps après sa conversion, on n'a pas dit, bon, on veut d'abord voir si vous avez des fruits. Hein? Et on a compliqué tout. Il croit. Qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? Non, voilà, si tu crois. Et il croit. Il dit, voici de l'eau. C'est le nul qui a vu l'eau. Voici de l'eau. Qu'est-ce qui m'empêche? Et Philippe n'a pas dit, oh, je vais vite aller demander à Jérusalem la permission à Pierre, Jacques et Jean, hein, pour savoir si je peux agir dans ce cas-là. On est dépendant du Seigneur. Et on répondra au Seigneur. Et s'il n'avait pas été convaincu que l'eunuque avait trouvé Jésus, il ne l'aurait pas fait. Mais il avait confessé Jésus. Et alors, c'est tellement merveilleux de descendre dedans l'eau, et puis il est baptisé, et l'eunuque s'en va tout joyeux, et Philippe disparaît. Hein? Le Seigneur enlève Philippe, et puis l'eunuque s'en va tout joyeux, il n'a pas besoin de Philippe, il a le Seigneur. Il a un plus grand que Philippe, et puis il a le secret du prophète Ésaïe. Quelle est la clé du livre d'Ésaïe? Vous avez compris? C'est Jésus. La clé du livre d'Ésaïe, c'est Jésus. C'est pourquoi on a appelé le prophète Ésaïe quelquefois le cinquième évangile. Parce qu'avec les textes du livre d'Ésaïe, on pourrait écrire une vie de Jésus extraordinairement comparable à celle des évangiles. Nous aurons l'occasion de le voir. Oui, la clé de ce livre d'Ésaïe, c'est Jésus. Et vous savez que le milieu du texte de ces il y a donc 66 chapitres hein, dans Ésaïe, ce qui fait combien de versets? Je ne vais pas vous faire compter ça. 1295. Hein? Il y a 1295 versets dans le livre d'Ésaïe, 66 chapitres. Et vraiment, c'est un merveilleux trésor que nous avons là. Et le milieu du texte, savez-vous où il se trouve? Justement dans le chapitre 20, dans le chapitre 33, au verset 21e. Chapitre 33, verset 21e. C'est le verset central du prophète, selon les maçons, qui comptait tous ces versets. Et qu'est-ce que c'est? Ce sont ces paroles-là. Mais l'Éternel est pour nous magnifique. Vous ne trouvez pas que c'est beau? Mais l'Éternel est pour nous magnifique. Dans la Bible de Chouraki, l'auteur juif qui a traduit tout l'Ancien Testament en français, de l'hébreu en français, comme aussi le Nouveau Testament du grec, en français, Chourakim est toujours le texte central selon les Massorètes, ce sont ces juifs qui comptaient tous ces versets. Et le texte central hein, du prophète Ésaïe, c'est Ésaïe 33, verset 21. Et les mots, justement, qui sont au centre, mais l'Éternel et pour nous, magnifique. Vous avez ça aussi dans vos bibles? Oui, non? trouvez pas que c'est beau? Si on pouvait quitter cette dimanche, hein, cette maison, en ayant fait cette expérience, et en pouvant dire, l'Éternel, le Seigneur, parce que l'Éternel c'est le Seigneur, est pour nous magnifique. Et attendez, l'Éternel est pour nous magnifique. N'allez pas dire, oh c'était formidable, c'était bien, cette retraite, tout cela, c'est pas de ça qu'il s'agit. Qu'est-ce que l'Éternel a été pour vous? L'Éternel a été pour moi magnifique. Parce que c'est cela que vous devez rencontrer. C'est lui. C'est lui-même. C'est de lui que vous avez besoin. Et vous avez besoin d'avoir des yeux qui se saisissent, des écailles qui tombent de vos yeux, puis tout à coup vous dites, mais tu es magnifique, Seigneur. Alors nous pourrions avoir un culte d'adoration, où il y aurait un jaillissement de vie, de louange, qui serait agréable à Dieu. Oui, le livre d'Ésaïe est un livre merveilleux. Et vous savez bien qu'après le Pentateuque, les cinq livres de Moïse, c'est quand même le livre d'Ésaïe qui est le livre le plus important de l'Ancien Testament. Nous aurons l'occasion de revenir, mais nous nous bornons maintenant ce soir à en faire une première lecture pour que notre texte se trouve dans le contexte. Qu'est-ce que vous avez comme version? Parce que j'ai pris plusieurs versions avec moi, mais vous avez la seconde?
Oui.
Alors, allons-y pour la seconde.
C'est là vraiment que l'Éternel est magnifique pour nous.
Oui, c'est ça. Mais maintenant nous allons... Oui, ben c'est ça. C'est là vraiment que l'Éternel est magnifique pour nous. Ben c'est ça le texte central des Aïe, des 66 chapitres, hein, chapitre 33. Mais maintenant nous allons lire le chapitre 21, hein, où nous allons trouver le texte qui est inscrit au tableau et qui annonçait notre retraite. Il y a, paraît-il, certaines personnes qui ont demandé à Mme Badet ce que j'allais dire. Parce qu'évidemment, peut-être qu'ils n'ont pas compris. Bien. Alors, je me dis quelquefois, est-ce que les gens n'ont pas lu le thème, hein? Le matin vient et la nuit aussi. Qu'est-ce qu'il va dire là-dessus? Vous avez compris quelque chose? Le matin vient et la nuit aussi. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une vérité de la palisse. Le matin vient, et la nuit aussi. Oui. Nous allons voir ce que la parole de Dieu dit. Et nous allons trouver qui a dit cela. Oracle sur le désert de la mer. Ça nous fait penser un petit peu à l'Irak. Désert de la mer. Comme s'avance l'ouragan du midi, il vient du désert, du pays redoutable, une vision terrible m'a été révélée. L'oppresseur opprime, le dévastateur dévaste. Monte, Elam, assiège, médit. Je fais cesser tous les soupirs. C'est pourquoi mes reins sont remplis d'angoisse, des douleurs me saisissent, comme les douleurs d'une femme en travail. L'espace m'empêche d'entendre, le tremblement m'empêche de voir. Mon cœur est troublé, la terreur s'empare de moi. La nuit de mes plaisirs devient une nuit d'épouvante. Et si vous voulez avoir un tableau exact de ce verset, la nuit de mes plaisirs devient une nuit d'épouvante, qu'est-ce que vous devez lire? Le chapitre 5 de Daniel, où Belshazzar, le roi, dans la nuit de ses plaisirs, où il boit avec ses femmes et ses concubines dans les vases d'or que son père a ramenés du temple de Jérusalem, où ils font le grand festival, la grande fête à Babylone, parce que c'est de Babylone qu'il est écrit, hein. Déjà dans cette nuit-là, alors qu'il est dans ses plaisirs, les Mèdes et les Perses vont s'emparer de la ville. Et ça sera la chute de Babylone. Et vous voyez comme j'ai à cœur que vous puissiez connaître les Écritures pour mieux les comprendre. Je vous cite ça juste en passant. Verset 5. On dresse la table, la garde veille, on mange, on boit, debout prince, oignez le bouclier. Car ainsi m'a parlé le Seigneur, va, place la sentinelle, qu'elle annonce ce qu'elle verra. Elle vit de la cavalerie, des cavaliers deux à deux. Souvenez-vous des Mèdes et des Perses qui étaient venus. Des cavaliers sur des ânes, des cavalier sur des chameaux. Elle était attentive, très attentive, puis elle s'écria comme un lion, « Seigneur, je me tiens sur la tour toute la journée, et je suis à mon poste toutes les nuits. Et voici, il vient de la cavalerie des cavaliers deux à deux. » Elle prit encore la parole et dit, « elle est tombée, Babylone, et toutes les images de ces dieux sont brisés par terre. Ô mon peuple, qui a été battu comme du grain dans mon air. » C'est de quel peuple qu'il est question là? Du peuple juif qui était captif à Babylone. C'est la destruction de Babylone qui était annoncée, mais en même temps, Dieu pense à son peuple qui a été battu comme du grain dans mon air. Ce que j'ai appris de l'Éternel des armées, Dieu d'Israël, je vous l'ai annoncé. Alors voilà, ça c'est l'oracle de Babylone. Puis nous continuons. Oracle sur Dumas. On me crie de Séir. Sentinelle, que dis-tu de la nuit? Sentinelle, que dis-tu de la nuit? La sentinelle répond, le matin vient, et la nuit aussi. Si vous voulez interroger, interrogez, convertissez-vous et revenez. Ça, le thème, on l'a pris donc dans cet oracle touchant Dumas, c'est ce qui va nous occuper des demain. Oracle sur l'Arabie, c'est donc trois oracles que nous trouvons dans ce chapitre. Vous passerez la nuit dans les broussailles de l'Arabie, caravane de dedans, portez de l'eau à ceux qui ont soif. Oui, nos amis américains et canadiens qui sont là-bas savent ce que c'est que la soif maintenant. Portez de l'eau à ceux qui ont soif. Les habitants du pays de Théma portent du pain aux fugitifs, car ils fuient devant les épées, devant les pieds nus, devant l'arc tendu, devant un combat acharné. Car ainsi m'a parlé le Seigneur, encore une année, comme les années d'un mercenaire, et son effet de toute la gloire de Kédar, il ne restera qu'un petit nombre de vaillants archers, fils de Kédar, car l'Éternel, le Dieu d'Israël, l'a déclaré. Bien, nous avons fait là une première lecture qui a replacé dans son contexte immédiat le thème. Nous n'allons pas plus loin ce soir sur cette question parce que nous voulons attendre ceux qui doivent encore se joindre à nous.
chers amis, hier soir, nous vous avons accueillis par cette parole. Nous ne sommes pas de la nuit, ni des ténèbres. Et nous avons souhaité que nous tous ici, nous soyons alors fils et filles du jour, fils et filles de la lumière en Jésus-Christ. Et ce matin, après la nuit, oui, est venu le jour, et bien aussi certainement, le jour du Seigneur arrivera après cette nuit dans laquelle se trouve le monde. Nous faisons quotidiennement l'expérience qu'après la nuit vient le jour. Et ce jour qui est prédit dans la parole arrivera certainement. C'est pourquoi nous avons mis cette parole pour aujourd'hui, qui se trouve, comme vous le savez, dans le chapitre 13 de l'Épître aux Romains. La vie est fort avancée et le jour est tout proche. C'est la traduction œcuménique qui dit cela. Le jour, avec un grand J majuscule, le jour est tout proche. Nous voulons prendre dans cette semaine conscience que la venue du Seigneur est plus proche que jamais. En tout cas, plus proche que le jour où nous sommes devenus des croyants, comme le dit une autre version. Le moment de la grande délivrance et de la possession de ce salut que nous n'avons encore qu'en espérance, car être sauvé, ce n'est pas simplement être ce que nous sommes maintenant, mais être sauvé, c'est être rendu semblable au Christ. Est-ce qu'il n'y a pas parmi vous quelques personnes qui ont ce désir intense d'être enfin semblable à lui? Et quand est-ce que nous lui serons semblables? Quand nous le verrons tel qu'il est. Et ce n'est pas du jour de la mort qu'il est question, mais du jour où il accomplira la promesse que nous avons déjà lue hier soir. Cette promesse qui est certaine, puisqu'elle est sortie de la bouche de celui qui est le chemin, la vérité et la vie, et qui a pu dire: vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures, je vais vous préparer une place. Et si je m'en vais, je reviendrai, et je vous prendrai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez aussi avec moi. C'est là la certitude qui doit s'emparer et donc de nos cœurs dans ces jours d'angoisse que traverse notre monde. Le jour est proche, la nuit est fort avancée. Alors, quel sera l'effet de cette certitude dans nos cœurs? Voyez-vous, Je voudrais vous poser ce matin une question. Non pas croyez-vous au retour du Seigneur. Je pense que la plupart parmi vous avaient quelques connaissances au sujet de la venue du Seigneur, du retour de Christ. Toute la Bible en parle. Il y a plus de 1500 textes dans l'Ancien Testament qui annoncent la seconde venue du Christ, sa venue en gloire. Il y a 325 passages dans le Nouveau Testament qui soulignent la même vérité. Donc, un chrétien dit évangélique devrait être au courant de la venue du Seigneur et savoir comment ces choses se passeront à ce moment-là. Mais ma question est celle-ci. Est-ce que la venue du Seigneur a un effet dans votre vie aujourd'hui? Est-ce que c'est pensé que le Christ revient et qu'il peut revenir réellement d'un moment à l'autre, qu'il n'est pas question d'attendre quelques événements prophétiques pour que cela arrive? Car il n'est pas question d'une prophétie, là. Il est question d'une promesse que Jésus a faite au ciel, à son Église. Il est question d'un droit d'aîné qui est l'enlèvement des croyants. Ce n'est pas une injustice. C'est un droit d'aîné. Ésaü a méprisé son droit d'aîné, car il était profane. Aujourd'hui, bien des chrétiens méprisent ce droit d'aîné et ne croient pas à cet enlèvement subi des croyants dans la gloire avant les terribles tribulations qui sont annoncées dans la parole et qui auront leur accomplissement. Nous voyons que tout se prépare sur le plan international, sur le plan mondial, pour que les événements, alors prophétiques, s'accomplissent, pour que Dieu reprenne ses relations avec Israël, et pour que des hommes nouveaux apportent encore l'Évangile à tous les peuples et à toutes les langues. Nous n'avons pas besoin d'attendre que toutes les nations du monde aient entendu l'Évangile pour que le Christ revienne. La venue de Christ pouvait se passer déjà dans le temps de la vie des apôtres. Et Jésus n'a jamais parlé de manière à ce qu'on puisse l'attendre seulement dans le lointain. Je viens bientôt. Et tous les hommes du Nouveau Testament ont été de ceux qui pouvaient penser aussi que le Seigneur pouvait venir dans leur vie. Ils sont morts. Ils sont morts, mais dans la certitude de ce retour, dans la certitude qu'ils ne seraient pas laissés derrière, mais qu'ils seraient même enlevés premièrement, et que ceux qui seraient vivants seraient avec eux. Ils se sont endormis dans la certitude du retour de Jésus qui apportera le salut complet à nos bien-aimés qui sont morts par leur résurrection, leur corps étant devenu conforme au corps de résurrection du Seigneur, et nous les vivons par une transmutation, un changement total qui nous rendra en un instant, en un clin d'œil, semblable au Christ. Alors, quand nous avons des choses et que ces vérités sont part de nos cœurs, un changement total s'opère en nous. Et voyez-vous, les premiers chrétiens aimaient à se saluer en s'adressant cette parole « Maranatha ». Et vous savez ce que ça voulait dire. Le Seigneur vient. Le Seigneur vient. Et alors, cela réveillait les cœurs, on s'exhortait les uns les autres. Le Seigneur vient. Alors, s'il vient, nous voudrions être trouvés tels qu'il le désire à sa venue. Le Seigneur vient. Alors, dans le contexte de l'Épître aux Romains, quand il est dit « Connaissons le temps que c'est déjà l'heure de nous réveiller du sommeil, car le jour du salut ou de la possession du salut est plus près de nous que lorsque nous sommes devenus croyants. » Alors qu'il y a des choses que nous allons délaisser dans ce monde. Nous connaissons maintenant une espérance tellement plus merveilleuse que tout ce que peut nous donner le monde. La venue du Seigneur opère dans nos cœurs un détachement des choses visibles. Et nous commençons à nous emparer dans notre vision des choses invisibles, car c'est vers ces choses invisibles et éternelles que nous allons. Eh bien, que dans ces journées, par la puissance du Saint-Esprit, nous puissions, en chacun de nous, faire le point et voir ce que la pensée de la venue du Seigneur a comme influence dans nos vies, sur nos affections. Est-ce que vous vous réjouissez qu'il vienne? Bien, vous dites non, plus tard. Quand on aime quelqu'un réellement, et que c'est quelqu'un, c'est pas une idée qui nous habite, mais une personne, est-ce qu'on désire son retour? Réellement, si nous l'aimons, nous désirons sa venue, nous désirons être avec le Seigneur, et toujours avec le Seigneur. C'est pas une espérance pour demain, c'est une espérance pour aujourd'hui. Alors cela nous réveille dans nos responsabilités. Voyez-vous, nous avons très peu de temps pour être encore des témoins sur la terre. Après, ce sera fini. La nuit viendra dès l'enlèvement des croyants. La nuit viendra où personne ne peut plus travailler. Cette nuit froide de la haine, cette nuit de la mort. Eh bien, que le Seigneur nous réveille. L'attente du constant du Seigneur chez les apôtres ne paralysait pas leur effort évangélique. C'est pas vrai. On n'a jamais évangélisé d'une façon aussi merveilleuse qu'au jour des apôtres. En 30 années de Jérusalem, l'évangile était dans la capitale du monde, à Rome. Donc, le retour du Seigneur, cette pensée qu'il vient bientôt, ne paralyse pas l'effort évangélique. Nous devenons des témoins, mais nous voudrions manifester vraiment à ce monde Jésus-Christ que nous attendons, qui n'est pas quelqu'un de vague, mais une personne bien connue. Et nous voudrions aussi que cette pensée nous sanctifie. Il n'y a pas de vérité plus sanctifiante que le retour du Seigneur, comme il n'y a pas de vérité aussi plus consolante que sa venue. car chaque jour qui passe nous éloigne de la séparation de nos bien-aimés et nous rapproche de ce revoir éternel. Eh bien, je demande à Dieu que cette fin de semaine soit pour nous une vraie révélation. Et Dieu, si nous croyons à l'inhérence des Écritures, nous prenions tous les textes de la parole pour avoir une conviction en ces jours où toute espèce de doctrine court jusque dans les milieux évangéliques pour nous enlever cette bienheureuse espérance qui doit précéder l'apparition du Seigneur qui sera notre manifestation en lui et avec lui à son retour. Dieu notre Père, c'est réellement dans ces choses nous soyons ensemble à ton écoute et que nous ne puissions parler que comme oracle de Dieu et servir par la force que tu fournis. En Jésus. Amen.
Mes chers amis, nous abordons cette dernière journée de notre prêtre en demandant à Dieu de nous rendre vraiment sensibles sa présence en ces derniers moments. Et ce matin, le texte qui m'a été donné en ce 25 novembre, c'est celui que nous lisons dans Hébreux, chapitre 10, verset 37, et qui ne fait que confirmer tout ce que nous avons vu ensemble précédemment. Car encore très peu de temps, et celui qui vient, viendra. Certaines traductions disent celui qui doit venir. Littéralement, c'est celui qui vient. Il est tout proche. Il vient et il ne tardera pas que nous puissions en être convaincus. Et notre conclusion, nous voulons l'espérer éperdument. Que pour les uns et les autres, c'est penser que le Seigneur ne tardera pas, que c'est là vraiment que le Seigneur est magnifique pour nous. Quand nous pensons qu'il ne tardera pas pour nous, oui, c'est quelque chose de magnifique et je vous rappelle que c'est le verset central d'Ésaïe 33, verset 21. Pensez que le Seigneur peut revenir pendant notre vie, c'est là vraiment qu'il est magnifique. Pour nous, nous avons une espérance. Et j'ai mis sa signature. Ce que vous devez retenir, ce n'est pas ce que moi j'ai pu vous dire, mais c'est ce que vous trouvez dans l'Écriture quand Jésus dit à la fin de ce livre que j'ai dans les mains, « Moi, Jésus, je suis l'étoile brillante du matin. » Le matin vient et la nuit aussi. L'oracle touchant du mât. Cet oracle qui nous semble énigmatique, qui nous apprend que la nuit est bientôt passée, que le matin
de la délivrance est près de luire, mais que la nuit ne tardera pas à revenir. Le matin de la délivrance pour les croyants, la nuit du jugement pour les incrédules. Et je pensais à la signification de Dumas. Vous savez ce que ça veut dire? Silence. Dumas veut dire silence. Alors je me suis demandé si dans le silence, vous avez, dans cette sainte semaine, entendu vraiment la voix du Seigneur. Et c'est une question qui m'a préoccupé cette nuit et qui m'a donné une certaine angoisse. Ai-je trop parlé? Moi-même, les réunions étaient-elles trop longues? Oui, je suis conscient de mes lacunes. Et comme Paul, je dirais que c'est dans la faiblesse et avec crainte et tremblement que je vous ai apporté cette parole, jour après jour, heure après heure, comme il le dit lui-même en parlant aux Corinthiens. Mais enfin, peu importe, par la grâce de Dieu, disait Paul, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. J'ai travaillé au milieu de vous, non pas moi, toutefois la grâce de Dieu qui est avec vous. Alors, aujourd'hui, vous avez là ce texte qui nous rappelle dans les épreuves que celui qui vient viendra. J'aimerais que cela marque votre vie, se fixe dans votre sensibilité, celui qui vient viendra. Et celui qui vient, c'est celui qui apporte la délivrance et la possession de ce salut que nous n'avons encore qu'en espérant. Que réellement, cette étoile du matin, que l'on voit paraître après le coucher du soleil, et avant son lever, oh que cette étoile du matin se soit levée dans mon cœur, que cette bienheureuse espérance de l'enlèvement des croyants qui va nous occuper dans ces derniers moments, que cette bienheureuse espérance vous a dit réellement, parce qu'elle peut transformer votre vie. Avant que se lève le soleil de justice, puissions-nous déjà connaître cette étoile du matin qui s'est levée dans nos cœurs.
au fond, ce que nous disions hier, ce droit d'aimer pour l'Église de Jésus-Christ, pour son corps, qui doit être uni à la tête, pour qu'il puisse apparaître dans toute sa gloire dans ce monde, apportant le jugement aux impies et établissant avec les siens son règne. Car Jésus ne veut pas régner sans l'Église. Et pourtant, il faut qu'il règne. Mais pour qu'il puisse régner, il faut qu'il ait les siens avec lui. Il veut apparaître dans ce monde avec les siens. Que le Saint-Esprit nous convainque lui-même de ces choses et que réellement notre conclusion soit celle du centre du prophète Esaïe, le Seigneur est vraiment magnifique pour nous et que nous sachions que c'est Jésus, l'étoile brillante et du matin qui s'efface avant le lever du soleil. Dieu notre Père, nous voulons maintenant te demander que dans ces derniers moments, nous puissions, sous l'effet de ton esprit et dans le silence de nos cœurs, entendre ta seule voix, afin que nous ayons non pas les convictions d'un homme désolé, mais la conviction de ton esprit, afin qu'on soit dans une unité extraordinaire, nous puissions arriver cet après-midi dans ce culte que nous voulons célébrer en mémoire de toi, te dire qu'un seul cœur, ô viens, Seigneur Jésus. Amen. Alors nous nous retrouvons à 9h.